Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
RTL 7h47, Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin l'ancien Premier ministre et candidat à la primaire à la droite. C'est
François Fillon. Bonjour François Fillon.
Bonjour.
La loi travail, Manuel Valls n'a donc pas attendu pour recourir à l'article 49.3. Il a d'une certaine manière suivi vos conseils puisque ça faisait des semaines que vous disiez que le gouvernement ne devait pas céder. Est-ce que vous êtes satisfait ?
Oui, il a cédé surtout depuis des mois et des mois. Et cette loi travail, c'est vraiment le symbole du quinquennat de François Hollande. C'est imposture et incompétence. Imposture parce que le président a été élu sur un programme de gauche et en niant la crise et qu'il vient aujourd'hui essayer de nous présenter des loi plutôt libérale, mais évidemment avec une majorité qui ne suit pas, et incompétence parce qu'il n'a cessé de négocier depuis le début de la mise de cette loi sur la table de travail du gouvernement, avec tous les partenaires, les syndicats, la majorité, et à la fin, il a ouvert une boîte de Pandore qu'il n'arrive plus à refermer. Ce texte ne sert plus à rien, il est même extrêmement nocif sur beaucoup de sujets, mais il symbolise l'impuissance du président de la République.
Alors, impuissance, imposture, inconséquence, ça ne mérite pas une motion de censure de la part de l'opposition, ça ?
Non, parce que la motion de censure, on l'a déjà déposée en première lecture. Le Sénat a fait un travail pour qui aurait pu permettre au gouvernement de s'appuyer sur une majorité différente, y compris sur les voix de ceux d'entre nous qui étaient prêts à voter ce texte, parce qu'il y avait des avancées dedans qui auraient pu être intéressantes. Maintenant, c'est une affaire entre la gauche, c'est une affaire à l'intérieur de la majorité dont on ne veut pas se mêler, ça n'a aucun sens.
Ça veut dire que vous ne voteriez pas une motion de censure de gauche, s'il devait y en avoir une, on saura ça dans la journée.
Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est plus là. Le problème aujourd'hui, c'est de changer de président de la République. Le problème aujourd'hui, c'est de changer de politique dans le pays. Il n'y a plus aucun espoir pour que François Hollande trouve des ressorts qu'il n'a jamais trouvé depuis 4 ans pour redresser le pays. Donc maintenant, il faut vraiment tourner la page.
Ce voilà. qui s'est passé hier, selon vous, c'est l'épilogue politique du quinquennat de François
Hollande. Oui, je pense que c'est un quinquennat qui commence avec Leonarda et ça se termine avec la loi travail. C'est un président de la République qui ne prend pas de décision, qui se laisse imposer les choses par les événements. Et il y a un événement peut-être encore plus grave que la loi travail, c'est l'abandon annoncé des 50 milliards d'économies. C'est la même veine, au fond, c'est la même impuissance, c'est la même incapacité à régler les problèmes.
On va parler des finances publiques d'un mot, parce que sur cette question, il y a un débat, notamment à gauche, sur le recours au 49.3. Il se trouve qu'un membre du gouvernement, Thierry Mandon, dit ce matin dans l'Express qu'il est favorable à la suppression de l'article 49.3. Est-ce que c'est votre cas ?
Non, je crois que le 49.3 n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le président de la République et son incapacité à régler les problèmes. Le 49.3, c'est un moyen pour un gouvernement et un président de la République légitimement élu de contraindre une majorité qui ne voudrait pas le suivre ou de gouverner le pays dans une situation où on n'a pas de majorité. Le 49.3, c'est pas le problème, le 49.3. Le 49.3, j'entends dire, c'est le déni de la démocratie. C'est absolument faux. Le président de la République a été élu démocratiquement, donc c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que François Hollande n'arrive pas à diriger ce pays, qui n'a jamais réussi à s'imposer comme un véritable chef de l'État. C'est ça, la question.
Alors, vous le disiez, le plan d'économie, on l'apprend ce matin dans les Échos, ça a été transmis hier dans une note aux députés, le plan d'économie de 50 milliards pour l'année prochaine ne sera pas respecté. Vous avez dit vous-même, lorsque vous étiez Premier ministre, que vous étiez à la tête d'un État en faillite, que vous inspire cette décision en année électorale.
Je pense qu'elle est très grave. Elle est très grave d'abord parce qu'elle aggrave la situation financière du pays. Elle va rendre son redressement encore beaucoup plus compliqué. Mais elle est peut-être encore plus grave parce que au moment où la France et l'Allemagne devraient être debout côte à côte pour proposer une vraie relance du projet européen, la France est déconsidérée. Voilà, ça fait des années et des années que les Français disent en permanence aux Allemands « Vous allez voir ce que vous allez voir, on va se réformer, on va faire des efforts, on va respecter nos engagements ». Comme ces engagements ne sont jamais respectés, les Allemands n'ont plus aucune confiance. Et il n'y a pas que les Allemands, les autres pays européens n'ont plus confiance.
Alors l'Europe, justement, le Royaume-Uni qui envisage de devenir un paradis fiscal après le Brexit en baissant drastiquement ses impôts, on est définitivement dans l'Europe du chacun pour soi ?
D'abord, ça suppose que la France fasse elle-même rapidement rapidement des efforts pour empêcher que la Grande-Bretagne...
Vous voulez dire qu'on devrait faire la même chose ?
On pourrait accueillir la place financière de Londres à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs de cette place financière qui aimeraient mieux venir à Paris plutôt qu'à Francfort ou à Dublin.
Mais enfin, il faudrait baisser l'impôt sur les sociétés.
De toute façon, il faudra baisser l'impôt sur les sociétés. On a le taux le plus élevé de tous les pays européens. Mais je pense que ça, ce sont des sujets pour l'instant marginaux. Le sujet principal, c'est est-ce que ces difficultés, ces troubles ne vont pas conduire à une nouvelle crise financière. Moi, c'est ma crainte, c'est-à-dire que on a une situation financière de l'Europe qui est fragile, de toute façon, avec des dettes souveraines qui sont très importantes, qu'on a oubliées parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Le Brexit vient ajouter une incertitude à cette situation, et donc il y a un grand danger pour la zone euro, pour l'Europe tout entière, d'être de nouveau prise dans une crise financière.
En tout cas, vous n'en voulez pas à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, de ce que d'autres l'accusent de dumping fiscal.
C'est pas que j'en veux pas, c'est à la Grande-Bretagne, c'est que je suis pas élu en Grande-Bretagne.
Mais quelle peut être la riposte de la France, faisons comme les Anglais.
La première riposte, c'est de dire aux Anglais, maintenant vous sortez, vous avez voulu sortir, vous sortez. J'ai proposé déjà, ça fait plusieurs jours, à l'Assemblée nationale, qu'on demande aux députés britanniques de ne plus participer au vote au Parlement européen, et on demande aux fonctionnaires britanniques de la Commission de se mettre en réserve, ce qui serait au moins déjà des décisions symboliques permettant d'enclencher le départ de la Grande-Bretagne. Et la deuxième chose, c'est que face au départ de la Grande-Bretagne, on construit un nouveau projet européen sur la base de la zone euro avec la France et l'Allemagne. Mais évidemment, pour ça, il faut qu'il y ait une volonté française, il faut qu'il y ait un président de la République française qui se bouge un peu.
Alors, une question dans l'actualité de ce mercredi, c'est aujourd'hui la fin du Ramadan. C'est aussi hier, c'était les résultats du bac, le début donc aujourd'hui des oraux. Est-ce qu'il faut permettre aux élèves musulmans concernés par les oraux de rattrapage de reporter leurs épreuves à demain, après la fête de l'Aïd el-Fitr, dont on rappelle qu'elle est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman?
Mais évidemment, c'est une tradition française depuis toujours. C'est le général de Gaulle, le premier, qui avait pris des décisions pour que les fonctionnaires français qui étaient de religion juive ou de religion musulmane puissent, lorsqu'il y avait des fêtes religieuses importantes, ne pas travailler ces jours-là.
Tout le monde à droite n'est pas d'accord avec vous, hein.
Oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a un certain nombre de gens à droite qui ont une sorte de réflexe pavlovien. Dès qu'on parle des musulmans, ils se mettent à éructer. Ils devraient faire attention parce que les principaux bénéficiaires de cette mesure que j'avais moi-même prise en 2004, ou en tout cas poursuivie en 2004,
quand vous étiez ministre de l'éducation,
les principaux bénéficiaires, c'est pas du tout les musulmans, c'est les Français de religion juive qui sont très intransigeants sur la question des fêtes religieuses. Et en réalité, il y a très peu de musulmans qui profitent de cette situation. Pour l'essentiel, ce sont des Français de religion juive. Enfin, je rappelle
qu'il n'y a pas une atteinte à la laïcité.
Non, je rappelle qu'il n'y a pas d'examen le jour de Noël et le jour de Pâques non plus.
Deux questions encore dans l'actualité. Emmanuel Macron est donné partant du gouvernement à partir du 12 juillet. En tout cas, c'est les intentions qu'on lui prête. Qu'est-ce que là encore vous pensez de ce départ probable?
Il serait temps qu'il se mette en accord avec ses convictions, et si j'avais été à la place du président de la République, je l'aurais mis dehors depuis longtemps. Non pas que je porte pas de jugement sur Emmanuel Macron, mais franchement, un ministre de l'économie et finances qui se promène en marchant dans le pays en disant la politique de mon président de la République est nulle et il faut la changer, d'ailleurs je crée un parti pour changer tout ça, c'est quand même pas ça fait désordre, voilà. Et ça vient ajouter à ce sentiment d'impuissance du président de la République. Voilà, on a l'impression qu'il tolère même à l'intérieur de son propre gouvernement des ministres qui sont en train de critiquer son action.
Nicolas Hulot, qui n'est pas candidat finalement, c'est de la sagesse, c'est finalement le signe que la politique, ça reste une affaire de professionnels de la politique.
Je pense que Nicolas Hulot, j'ai jamais pensé que Nicolas Hulot serait candidat à la présidence de la République. Il y a une sorte de d'arlésienne, Nicolas Hulot. Il a des qualités de producteur d'émissions de télévision. Il a un engagement personnel pour l'environnement qui est remarquable. Mais ça suffit pas pour être élu président de la République.
J'ai une toute dernière question. Il se trouve que le Canard enchaîné a 100 ans aujourd'hui, qui ne vous a jamais épargné, ni d'ailleurs toute la classe politique, sans rancune. Bon anniversaire quand même.
Bien sûr, j'ai aucune rancune pour le Canard enchaîné, j'ai né de la rancune que pour ceux qui l'alimentent et qui sont souvent mes amis, enfin nos amis.
Merci François Fillon d'avoir été l'invité de RTL ce matin.